France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quoi de neuf dans le noyau ? Dans tout objet constitué de matière, donc dans tout objet digne de ce nom, il y a des atomes. Au centre de tous les atomes, il y a des noyaux dits atomiques, on comprend pourquoi. Dans tous les noyaux atomiques, il y a des protons et des neutrons, sauf dans les noyaux des atomes d'hydrogène, où il y a seulement un proton et pas de neutron. Dans tous les protons et tous les neutrons, il y a des particules élémentaires qu'on appelle les quarks. Ce que je viens de dire là, c'est la façon ordinaire de présenter la structuration de la matière. Elle ressemblerait en somme à une affaire de poupée russe. Tout objet matériel serait un sac de billes, chacune d'elles contenant à son tour un sac de billes plus petite, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on tombe sur des billes ne contenant pas de billes plus petites, autrement dit sur des billes insécables, et alors la division s'arrête. En réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Qu'en est-il par exemple pour les noyaux atomiques ? Que sait-on d'eux qui soit sûr ? Que reste-t-il à comprendre à leur sujet ? Bref, où en est la physique dite nucléaire ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Marine Vandenbroek. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne nucléaire à la direction de la recherche fondamentale du CEA et vous venez de recevoir le prestigieux prix Thibault pour l'année 2024. Et vous êtes venue accompagnée par votre stagiaire, Leïla Guérou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élève en classe de 3e à l'institution Saint-Joseph à Caen et vous venez de passer donc une semaine de stage en compagnie de Marine Vandenbroek qui vous a certainement appris beaucoup de choses sur le noyau et sur la recherche en général. Marine Vandenbroek, je l'ai dit, vous avez reçu le prix Thibault. Quel est ce prix et pourquoi le remet-on et à qui ?
Alors le prix Thibault, c'est un prix qui est remis tous les deux ans par l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon. Et c'est un prix qui est donc en l'honneur du physicien Jean Thibault, qui est un physicien nucléaire, grand physicien nucléaire, qui a notamment fondé l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et donc ce prix est remis tous les deux ans à des jeunes physiciens de moins de 40 ans, dans les domaines nucléaires, particules, astro et cosmologie. Et cette année, donc je l'ai eu en 2024, avec mon collègue Josquin Erard, que je félicite à nouveau aussi, jeune physicien brillant en cosmologie de l'APC.
Leïla Guérou, donc vous êtes en stage, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous aviez entendu parler des atomes et des noyaux d'atomes lors de vos cours en classe de 3e ou auparavant en 4e ?
Oui, j'avais travaillé dessus en 4e, principalement. Et en 3e, je crois un petit peu aussi.
Quelle image vous faites de l'atome ? Il ressemble à quoi dans votre esprit ?
C'est une toute petite chose, très très petite, avec un noyau composé de petites boules qu'on représente avec des couleurs pour se l'imaginer plus facilement.
Donc, par exemple, il y a des protons et des neutrons, on l'a dit, les protons sont bleus.
Et les neutrons rouges.
Donc ça ressemble à une sorte de framboise bicolore ?
Oui, un peu.
Il y a des électrons qui tournent autour ?
Oui.
Bon, eh bien la règle du jeu est fixée. Marine Vandenbroek, dans la première moitié de cette émission, vous n'aurez le droit de dire que des choses que Leïla puisse comprendre.
C'est noté.
Et après, on parlera de vos travaux de recherche, notamment de ceux qui vous ont valu ce prix. Je suis un peu inquiet parce que d'habitude, les invités viennent avec des notes manuscrites. Et vous, vous arrivez avec un article de Nature que vous venez de publier. Donc j'ai quelques craintes sur le niveau de l'émission.
Non, je promets, je vais essayer d'être la plus pédagogue possible.
Alors Leïla a décrit le noyau atomique comme une sorte de framboise sphérique. Mais quelle est en réalité la forme d'un noyau ? Est-ce que c'est toujours une sphère ?
Alors c'est une question qui est très difficile. On se le modélise comme une framboise pour bien se représenter donc les protons et les neutrons qui constituent ce noyau. Mais quand on modélise le noyau, il peut prendre différentes formes, celle d'une sphère dans certains cas. Mais des fois, il peut être déformé selon un certain axe, un peu comme une forme de cigare ou de ballon de rugby. Des fois, il peut être aplati comme une forme de lentille. Et dans de plus rares cas, on peut aussi avoir des déformations plus exotiques, originales, un peu comme une forme de poire.
Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer la forme d'un noyau ?
C'est aussi une question compliquée. Il y a plusieurs méthodes expérimentales. On va faire des réactions. On va envoyer des sondes, c'est-à-dire d'autres noyaux ou d'autres particules sur le noyau dont on cherche à étudier la forme. Et on va regarder la manière dont s'excite le noyau. Donc c'est un bien grand mot, mais c'est-à-dire que quand on va donner de l'énergie au noyau, il va se mettre dans un état excité. Ces excitations sont discrètes, ce n'est pas continu. Donc ça fait un peu comme une empreinte, un code barre. Et on va décrypter ce code barre grâce au modèle pour en déduire la forme du noyau. Ça, c'est la méthode standard. Mais il y a d'autres méthodes aussi.
Il va peut-être falloir introduire un peu de vocabulaire pour comprendre la suite de votre propos. Donc on a dit qu'il y avait des protons et des neutrons. Le nombre de protons qu'il y a dans un noyau, on l'appelle le numéro atomique. On le désigne en général par la lettre Z. Et les caractéristiques de l'élément chimique.
Tout à fait.
Donc, petite révision pour vous, Léla. Combien il y a de protons dans l'hydrogène ?
Un seul.
Là, c'est la maîtresse de stage qui répond, c'est mauvais signe.
Il y a un seul proton, pas de neutron et un seul électron.
Très bien. Et par exemple, dans l'hélium, combien de protons ?
2.
Bravo. Dans l'uranium ?
92.
C'est la maîtresse de stage qui répond. Bref, le nombre de protons caractérise l'élément chimique. Et les neutrons sont là en plus. Et quand on calcule le nombre total de protons et de neutrons dans le noyau, on a un nombre qu'on appelle le nombre de masse, qui est la somme de Z, le nombre de protons, et de N, le nombre de neutrons. Bon, j'ai bon
Tout à fait. Alors en général, la nature aime globalement les choses symétriques, donc on a à peu près le même nombre de neutrons et de protons dans le noyau. Pour les noyaux les plus abondants que l'on trouve sur Terre. Mais le nombre de neutrons peut varier. On aura toujours le même élément, c'est-à-dire qu'un oxygène qui est typiquement composé de 8 protons, il aura toujours 8 protons, mais il peut avoir 8 neutrons, 9 neutrons, 10 neutrons, il peut avoir un certain nombre de neutrons. L'oxygène le plus abondant sur Terre, c'est l'oxygène 16 qui est composé de 8 protons et de 8 neutrons. C'est plus de 99% des oxygènes que l'on trouve sur Terre. Mais on trouve aussi de l'oxygène 17 et 18, donc de nombre de masse 17 et 18, c'est-à-dire avec un nombre de neutrons de 9 et 10 respectivement, stable sur Terre. Là, j'ai dit stable, mais on a aussi, après, des oxygènes qui peuvent être instables.
C'est-à-dire radioactifs.
Exactement.
Avant qu'on parle de radioactivité, j'ai une question.
Pas de problème.
Alors, si Léla peut répondre, elle répondra. Si elle peut pas répondre, vous répondrez à sa place. Mais moi, j'ai appris à l'école que les particules de même signe se repoussent. Or, les protons ont une charge positive, les neutrons une charge nulle. Donc, dans le noyau, les protons devraient se repousser, de sorte que le noyau ne devrait pas pouvoir se constituer. Il devrait se disperser comme une sorte de gaz. Qu'est-ce qui empêche que ça se passe ?
L'interaction forte.
C'est quoi ça ?
C'est le phénomène qui permet que, justement, ça ne s'éloigne pas et que ça reste concentré en...
C'est-à-dire qu'il y a une force qui relie les protons et les neutrons à l'intérieur des noyaux et qui les colle, en fait, les uns aux autres.
Exactement.
C'est la bonne réponse, Marie de Vandenbroek.
Oui, très bien.
Alors, cette interaction nucléaire forte, comment est-ce qu'on la caractérise ? Est-ce qu'on l'observe à notre échelle ? Comment est-ce qu'on l'étudie ?
C'est aussi une question compliquée et c'est une des raisons pour lesquelles on continue de faire de la physique nucléaire fondamentale de manière intensive, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle du noyau, on ne sait pas très bien caractériser cette interaction forte. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'interaction forte qui se manifeste à l'échelle du noyau, elle est en fait une résultante de l'interaction forte qui s'exerce à plus petite échelle. Dans l'introduction, vous avez parlé des sous-constituants, des protons et des neutrons, qui sont les quarks et les gluons.
Et j'ai pas parlé des gluons.
Non, je le rajoute. et donc la théorie de l'interaction forte, en fait, c'est ce qu'on appelle la chromodynamique quantique, et elle est définie au niveau des quarks et des gluons. Ce que l'on ressent au niveau du noyau, c'est une résultante de cette interaction entre les quarks et les gluons. Mais il n'y a pas de lien direct entre les deux.
C'est comme si vous voulez comprendre les lois d'une société à partir des lois qui caractérisent les individus.
C'est ça.
C'est pas facile. C'est ce qu'on appelle le problème à N-corps.
Exactement.
Une fois qu'on a dit que le noyau est une sorte de framboise constituée de protons et de neutrons, qu'il y a des interactions qui lient ces particules, en quoi le problème n'est-il pas déjà résolu dès lors qu'on a dit cela ?
Alors, le problème n'est pas résolu parce que les manifestations de cette interaction forte, à l'échelle du noyau, elles se manifestent de plein de manières différentes. On peut parler, par exemple, des déformations du noyau dont on a parlé, des limites d'existence des noyaux. Pourquoi des noyaux existent et pourquoi d'autres noyaux n'existent pas ? Quel est le noyau le plus lourd qui puisse exister ? Ça, c'est un de mes axes de recherche. Il y a plein de questions ouvertes. Et aujourd'hui, notre description de l'interaction forte ne nous permet pas de répondre à toutes ces questions.
Alors, on a dit tout à l'heure que certains noyaux sont instables. Ça veut dire qu'ils sont radioactifs. Comment est-ce que vous la définissez, vous, Marine van den Broek ?
Alors, la radioactivité, c'est le fait que certains noyaux atomiques ne vont pas être stables, mais au bout d'un certain moment, vont se transformer en un autre noyau. Ça vient du fait, justement, que cet équilibre entre protons et neutrons au cœur du noyau n'est pas optimal pour cet élément en particulier. Et donc, s'il y a un surplus de neutrons, le neutron va avoir tendance à vouloir se transformer en proton, ou alors, s'il y a un surplus de protons par rapport au nombre de neutrons, le proton va avoir tendance à se transformer en neutron. Ça, c'est la radioactivité bêta.
Donc, il y a émission, chaque fois que cette transmutation a lieu, il y a émission de particules, en l'occurrence des électrons.
Et des neutrons.
Ou bien des positrons, si on a affaire à la transmutation du proton en neutron.
C'est ça.
Est-ce que tout est clair, Léla, pour l'instant? Vous avez compris ce qu'a dit Marine?
Oui.
Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions à lui poser?
Non.
Pas pour l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas des ambiguïtés sur la radioactivité par le fait qu'on parle de période? Moi, je connais des gens qui pensent que puisqu'on parle de période radioactive, la radioactivité serait un phénomène périodique, c'est-à-dire que cette transmutation se produirait de façon répétitive, chaque événement étant séparé du suivant par une durée égale à la période. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette image ?
Alors, je pense qu'il y a une confusion qui vient du fait qu'on définit ce qu'on appelle un temps de demi-vie du noyau. Et donc, temps de demi-vie, je pense qu'on se représente un temps de vie, et on se dit qu'un noyau va vivre 2 ans, si c'est son temps de vie est de 2 ans. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si un noyau a un temps de demi-vie de 2 minutes, ça veut dire qu'une population de 100 noyaux, de ce temps de vie, de ce temps de demi-vie de minutes, au bout de 2 minutes sera diminuée de moitié. C'est ça que ça veut dire.
On passera de 100 à 50.
Exactement. Donc en fait, ça correspond à une probabilité de transformation.
Mais justement, ce qu'il y a de fascinant avec les atomes radioactifs, ou les noyaux radioactifs, c'est que leur probabilité de se désintégrer, par exemple dans l'heure qui vient, ou dans l'année qui vient, est indépendante de leur âge.
Oui.
Donc le mot demi-vie est trompeur.
Trompeur.
Parce que c'est pas parce qu'il a passé un temps égal à sa demi-vie qu'il lui reste la moitié de sa vie à vivre.
Tout à fait. C'est très trompeur.
Et est-ce qu'il y a une image comme ça qui peut illustrer cette propriété? En fait, ce sont des atomes qui sont mortels, ils sont condamnés à mourir, au sens où ils se transmutent, ils deviennent d'autres noyaux, mais ils le font d'une façon qui ne dépend pas de leur âge, c'est-à-dire que ça n'est pas le résultat d'une sorte de vieillissement.
Exactement. C'est très difficile à se représenter, je trouve.
Alors que nous, les humains, on a une probabilité de mourir qui augmente avec notre âge.
Oui.
Donc nous ne sommes pas l'équivalent vivant d'atomes radioactifs.
Pas du tout.
Vous avez parlé, Marine van den Broek, des noyaux super lourds. Qu'est-ce que c'est qu'un noyau super lourd ? À partir de quel numéro atomique on devient super lourd ?
Alors les noyaux super lourds, c'est une des questions les plus étudiées en physique nucléaire fondamentale contemporaine aujourd'hui, car ça correspond vraiment à sonder les limites d'existence de la matière, d'où l'intérêt. Donc je réponds à la question sur comment on définit des noyaux super lourds. Pour répondre directement à la question, c'est à partir du numéro atomique Z égale 104. En dessous de Z égale 104, on parle de noyau lourd éventuellement quand on s'approche de Z égale 104, noyau super lourd à partir de Z égale 104.
Donc, Z égale 104, c'est un élément chimique qui n'existe pas dans la nature.
Exactement. C'est le Rutherfordium, si je ne dis pas de bêtises.
Rutherfordium, Rutherford étant le physicien qui a découvert l'existence du noyau à l'intérieur des atomes.
Oui. Et alors, pourquoi on fixe cette limite à Z égale 104? Car le noyau atomique est un objet complexe qui peut être modélisé par la mécanique quantique ou bien par la mécanique classique, qui est vraiment à l'interface entre les deux. Et si on prend une modélisation type classique du noyau, on va dire que le noyau peut être modélisé par une sphère de fluide chargée positivement parce qu'on sait qu'il y a des protons dedans, et incompressible. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de la goutte liquide. Et le modèle de la goutte liquide, qui est un modèle simple, mais qui marche encore, qui fonctionne encore très bien, nous dit que à partir de Z égale 104, les noyaux ne devraient plus exister à cause de la répulsion coulombienne.
C'est-à-dire que les protons se repoussent et ça les fragmente.
Exactement. En fait, il y a trop de répulsion, trop de charge plus au sein de cette goutte de liquide qui ferait exploser le noyau. Or, on sait que les noyaux plus lourds que Z égale 104, ces fameux noyaux super lourds, existent, car on les a produits en laboratoire. Et on les a identifiés, mesurés, etc.
C'est combien le record hein?
118.
Z égale 118.
Oui, Loganesson.
Il s'appelle Loganesson.
Oui, en référence au chercheur Yuri Loganesson, qui est un chercheur russe, qui a découvert ce noyau et cet élément.
Mais leur durée de vie doit être très courte, j'imagine.
Oui. Là, comme ça, je ne l'ai plus en tête.
Mais elle est courte.
Oui, elle est courte.
Est-ce que plus le Z est élevé dans le domaine des noyaux super lourds, plus la durée de vie est courte?
Alors, de manière générale, au plus on s'approche des limites d'existence, que ce soit dans les noyaux super lourds ou dans les noyaux plus légers, dans les asymétries en protons-neutrons, au plus on s'éloigne de la stabilité, donc de ce nombre, entre guillemets, idéal de protons-neutrons pour un élément, au plus on s'éloigne et on va aux frontières, au plus les temps de demi-vie sont courts. Mais les théories nous prédisent que qu'il existerait des noyaux encore plus lourds que Loganesson de Z égale 118. Et aujourd'hui, ces noyaux n'ont pas encore été découverts. Et ces noyaux pourraient avoir des durées de vie relativement longues. Et alors, tout dépend des théories. Hein. Quand je dis relativement longues, ça peut être minutes, années, etc. Plus long, en tout cas, que Loganesson Z égale 118. Ça reste des théories. Aujourd'hui, on ne les a pas mesurées.
Mais Marie Vandenbron, vous avez expliqué le modèle de la goutte liquide, il est pris en défaut parce qu'il prévoyait un Z maximal de 104, on est à 118, on prédit même que ça pourrait être dépassé. Et c'est quoi les arguments qui permettent de compléter ce modèle ou bien de montrer ce par quoi il est faux?
Alors c'est justement le fait que le noyau, ce n'est pas aussi simple qu'une goutte liquide, c'est que c'est aussi un objet quantique et qu'on est vraiment à l'interface. Au niveau taille, le noyau c'est un objet de taille qu'on appelle mésoscopique, donc c'est vraiment cette frontière à l'interface entre suffisamment gros pour être considéré comme un système statistique et donc de manière classique, et suffisamment petit pour avoir des propriétés qui viennent de la physique quantique. Et ça, on le voit quand on regarde les effets fins de structure, les propriétés fines des noyaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde globalement les frontières d'existence des noyaux, la goutte liquide les prédit globalement, mais si on regarde plus finement, on a besoin des propriétés quantiques pour voir les effets fins.
Donc pour pouvoir dire, si je comprends bien, que des noyaux plus lourds que le 118 existent, on fait des simulations à partir de modèles?
Oui.
Ou bien est-ce que ça se déduit d'arguments physiques assez simples, y compris des arguments de physique quantique? Ou est-ce que c'est de la simulation? C'est des calculs?
C'est la théorie. Donc c'est vraiment... les théories, on les optimise. Nos théories, nos modèles, même plus précisément, sont de plus en plus optimisés par les résultats de l'expérience. Et donc, par exemple, étudier les propriétés des noyaux lourds et des noyaux super lourds affine nos modèles sont de plus en plus robustes, et donc ces modèles prédisent, les prédictions de ces modèles sont de plus en plus précises. Parce qu'en fait, le rôle des modèles, il est double. Il est à la fois de décrire un système, mais aussi d'être prédictif. Et donc, en utilisant nos résultats expérimentaux dans des noyaux un petit peu plus légers, des résultats expérimentaux de propriétés nucléaires, la forme, des excitations, des temps de demi-vie, des choses comme ça, des certaines propriétés. Si nos modèles sont capables de reproduire ce que l'on mesure, ces modèles sont de plus en plus fiables et on peut les utiliser avec d'autant plus de confiance pour leurs prédictions.
Mais est-ce qu'un jour vous pensez qu'on aura un modèle unique pour tous les noyaux, dans toutes les conditions, ou bien est-ce que vous avez des modèles qui s'adaptent à certaines parties du tableau de Mendeleïev, du tableau des...
Alors aujourd'hui, effectivement, on a des modèles qui sont adaptés à certaines régions de masse du noyau. On n'a pas un seul modèle qui est capable de reproduire les propriétés.
D'autant que j'ai l'impression que les physiciens nucléaires qui travaillent sur les noyaux lourds ne sont pas les mêmes que ceux qui travaillent sur les noyaux légers.
C'est vrai.
Donc la communauté n'est pas encore unifiée elle-même.
C'est vrai. Alors c'est aussi parce que ce sont des théories, des modèles tellement poussés qu'en fait les physiciens se spécialisent dans un...
Leila Guérou, je l'ai dit, vous avez passé une semaine de stage en compagnie de Marine Vandenbroucke. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant ce petit séjour dans un laboratoire de recherche ?
Ce qui m'a le plus surprise, c'est comment les technologies sont avancées maintenant et à quel point on peut voir des choses très très petites et aussi voir des choses très très grandes. Et je trouvais ça assez impressionnant de voir que nous, en tant qu'humains, on pouvait produire des choses qui nous permettaient de voir ça.
Des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux.
Voilà.
Et vous avez remarqué que plus les choses qu'on veut voir sont petites, plus les instruments qui permettent de les voir ou de les produire sont grands.
Oui, c'est vrai.
C'est bizarre ça, non ? Comment est-ce qu'on l'explique ?
Peut-être parce que plus c'est petit, plus c'est compliqué à observer. Donc il y a besoin de plus d'instruments pour essayer de...
Il y a une notion d'énergie.
De voir plus. Et oui, il y a besoin de plus d'énergie. Quand on veut observer quelque chose de petit, il faut beaucoup d'énergie, alors que quand on a besoin d'observer quelque chose de très grand, il y en a besoin de beaucoup moins.
Et parmi les choses que vous avez apprises grâce à ce petit stage, quand je dis petit, je parle de sa durée, hein, mais il peut être très important du point de vue de ce que vous avez vécu. Et quelles sont les choses que vous avez apprises qui vous ont le plus surprise ? Pour le dire autrement, est-ce que au bout d'une semaine, tu en sais plus sur le noyau qu'au début de la semaine ? Est-ce que tu as l'impression de mieux comprendre ? Ou est-ce que tu trouves que c'est encore plus compliqué que ce que tu pensais ?
Alors, bah oui, j'en sais plus, déjà. Parce que avant mon stage, donc, je connaissais globalement la structure d'un atome, etc. Parce que j'ai ma mère qui m'explique ça depuis que je suis petite. Donc, ça va. Mais tout ce qui est quark, etc., on m'en avait pas vraiment parlé ni expliqué ce que c'était. Donc,
Est-ce que ça donne envie de faire de la physique et de la recherche plus tard ?
Oui.
Marine Vandenbroucke, est-ce que vous avez l'impression que cette physique est bien connue, suffisamment enseignée, ou est-ce que elle est moins promue que des sciences peut-être plus spectaculaires comme la cosmologie, la physique des particules ? C'est une sorte de zone intermédiaire que vous explorez.
Je pense qu'elle est moins connue. J'ai l'impression que, sur certains aspects, elle est connue. Le fait que les éléments chimiques sont caractérisés par un nombre de protons, jusqu'au tableau de Mendeleïev, globalement, on connaît. Après, c'est un enseignement qui arrive tardivement. Je pense qu'il faut attendre l'université pour vraiment avoir un cours de physique nucléaire fondamental. Ça vient tardivement. Alors que c'est vrai que je pense que les jeunes sont plus sensibilisés à des domaines comme l'astrophysique, la cosmologie. J'imagine que ça vient aussi des belles images qui sont véhiculées. C'est vrai que nos collègues astrophysiciens, avec les magnifiques images qu'ils prennent avec leurs satellites, etc., ont des images qui font rêver. Et peut-être que c'est plus facile de toucher le grand public dans des domaines comme ça qu'en physique nucléaire où il faut faire beaucoup d'abstraction pour se représenter la physique du noyau.
Comment vous expliquez qu'il y ait eu dans l'histoire de la physique nucléaire beaucoup de femmes présentes, peut-être plus que dans d'autres disciplines? Ça a commencé évidemment avec Marie Curie, mais il y a des femmes qui ont joué des rôles très très importants, notamment avant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à Lise Meitner qui a compris la fission de l'uranium-235. Avant elle, il y avait une physicienne allemande qui s'appelait Ida Dodak, qui avait eu la même idée 4 ans plus tôt. Les femmes ont joué un rôle plus fort peut-être dans cette discipline que dans d'autres. Est-ce que vous pouvez le comprendre ?
Je ne sais pas. C'est vrai que même encore aujourd'hui, quand on regarde le pourcentage de femmes en physique nucléaire en comparaison aux départements d'à côté qui sont en astrophysique ou même en physique des particules, donc que ce soit l'échelle de taille au-dessus ou l'échelle de taille en dessous, on est un petit peu plus représenté. Alors bon, relativisons, hein, on reste bien en dessous de la moitié, mais je ne sais pas. C'est difficile. C'est peut-être justement à cause des personnalités inspirantes.
Hein. Marie Curie.
Oui, on peut parler de Maria Koppermeier aussi, qui a introduit les nombres magiques et le modèle en couche, qui est un modèle encore bien, bien utilisé aujourd'hui en physique nucléaire. Peut-être. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui m'ait fait venir en physique nucléaire, mais peut-être qu'il y a des personnes inspirantes et qui jouent un rôle.
Alors, vous êtes venu, je l'ai dit, avec un article de Nature que vous avez co-signé. De quoi parle-t-il? J'ai vu que dans le titre, il y a le mot fermium. Le fermium, c'est un élément chimique. Le Z égale 100, donc qui n'existe pas dans la nature.
Exactement.
Et en quoi cet élément chimique vous intéresse-t-il? Et qu'avez-vous trouvé qui mérite une publication dans Nature?
Alors, donc effectivement, le fermium, c'est l'élément chimique composé de 100 protons. Donc, on n'est pas dans les noyaux super lourds parce qu'on n'est pas encore au-delà de Z égale 104. Mais on est quand même dans les noyaux très lourds parce qu'on est juste en dessous. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, comprendre les limites d'existence de la matière... Dans l'étude des noyaux super lourds, il y a deux approches, je dirais. Il y a ceux qui cherchent à produire des noyaux plus lourds que le Z égale 118, on est dans la production. Et il y a ceux qui cherchent, plutôt comme moi, du coup, à comprendre les propriétés des noyaux un petit peu en dessous, un petit peu moins lourds, pour avoir des modèles de plus en plus précis, contraints, et donc être de plus en plus prédictifs sur les limites d'existence de la matière. Et... Donc là, le résultat que j'ai amené, c'est le résultat d'une collaboration menée par nos collègues allemands auprès de l'accélérateur GSI, donc en Allemagne, à Darmstadt. Et c'est un résultat de spectroscopie laser de plusieurs isotopes de fermium. Alors déjà, je vais peut-être dire ce que c'est qu'un isotope. Donc on a dit que pour un élément chimique donné, donc là typiquement le fermium composé de 100 protons, on pouvait avoir un certain nombre de neutrons. Donc les isotopes, en fait on parle d'isotopes quand un noyau diffère d'un autre juste par son nombre de neutrons. Donc là on a, dans cet article, on a étudié 8 isotopes de fermium. Et on les a étudiés par spectroscopie laser. Alors, la spectroscopie laser, c'est une technique expérimentale que personnellement je trouve particulièrement intéressante parce que on va pas étudier le noyau directement, on va se placer au niveau de l'atome. Donc, on va revenir avec le nuage électronique autour du noyau. On va se placer au niveau de l'atome et on va aller étudier ce qu'on appelle le spectre atomique, les transitions atomiques. Alors en effet, les électrons autour de l'atome, on peut les modéliser comme rangés sur des niveaux d'énergie. Et quand on donne de l'énergie à l'atome, ces électrons vont monter de niveau d'énergie. L'atome est un objet quantique, donc on monte de niveau d'énergie. Ces niveaux d'énergie sont discrets, on n'a pas un continuum d'énergie.
Comme une échelle, comme les barreaux d'une échelle.
Comme les barreaux d'une échelle. Et là encore, on a un code-barre. Tout à l'heure, je parlais d'un code-barre. Là, c'est pareil. Le spectre atomique, c'est un code-barre. Et il se trouve que ce spectre atomique, il a en lui l'empreinte de certaines propriétés du noyau, et notamment de sa forme, et pour être encore plus précise, de sa distribution en moyenne en charge.
Charge électrique.
Oui.
Parce que quand il se déforme, la répartition des protons est modifiée.
Exactement.
Et donc, la densité... est modifiée elle aussi.
Et, c'est un
et les électrons ne ressentent plus la même force
Exactement.
Électrique.
Il y a un impact sur le nuage électronique et donc le spectre atomique en est modifié. Et donc en allant sonder expérimentalement ce spectre atomique, on peut en déduire des propriétés du noyau au sein de cet atome. Et là où cette technique était assez puissante, c'est que on a une meilleure maîtrise des modèles de physique atomique que des modèles de physique nucléaire. Et donc, ça nous permet de vraiment sonder les propriétés du noyau de manière totalement indépendante des modèles
de physique. Donc, si je comprends bien, vous utilisez une science qui est très bien connue, établie, la physique atomique. On comprend bien le spectre des atomes pour comprendre ou aider une science un peu plus incertaine qui est celle du noyau.
Exactement.
Mais alors, ces atomes de fermium, vous l'avez dit tout à l'heure, le fermium a une durée de vie très courte.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'on peut fabriquer des atomes avec des électrons qui tournent autour de ces noyaux très, très... Bref.
Une des forces de cette expérience et de ce résultat, et ce pourquoi il a été publié dans Nature, c'est justement la capacité qu'a eu la collaboration, mais donc surtout mes collègues allemands que je tiens à mettre en avant dans ce résultat, pour aller produire ces noyaux de fermium. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé vraiment des méthodes de production différentes, complémentaires, pour aller produire jusqu'à 8 isotopes de fermium différents, pour ensuite en réaliser la spectroscopie laser. Et donc parmi ces 8 isotopes de fermium, il y en a 5 qui ont été produits auprès d'accélérateurs, 6 pardon, qui ont été produits auprès d'accélérateurs, et 2 qui ont été produits hors ligne, on dit, en allant chercher des échantillons irradiés auprès de réacteurs à Oak Ridge aux États-Unis qu'ils ont importés, qu'ils ont réirradiés pour en extraire l'isotope à l'intérêt, etc. Et auprès, donc ça c'est pour la partie hors ligne, pour les 6 isotopes qui ont été produits auprès d'accélérateurs, là on passe par des réactions de fusion-évaporation. C'est-à-dire qu'on va prendre un plus petit noyau, un autre plus petit noyau, et on va les faire fusionner. Et lors du ce processus de fusion est souvent suivi de l'évaporation de quelques protons et neutrons. Et c'est cette fusion-évaporation qui va permettre de produire des noyaux plus lourds, et notamment le fermium.
Alors qu'est-ce qu'on apprend sur la forme de ces noyaux de fermium grâce à cette nouvelle méthodologie ? Est-ce que ce sont des sphères, des poires, des disques ?
Alors là, on n'a pas trop... Dans cet article-là, on ne regarde pas forcément directement la forme précisément. Mais ce qui est intéressant comme résultat dans cette étude, c'est que on a pu suivre, du coup, en regardant comment change le spectre atomique d'un isotope à l'autre, on peut suivre l'évolution du rayon de charge moyen d'un isotope de fermium à l'autre. Et ce qui est intéressant comme résultat dans cet article, c'est qu'après ça a été comparé à des modèles nucléaires cette fois-ci. Donc des modèles très simples, celui de la goutte liquide dont j'ai parlé un peu précédemment, mais aussi des modèles nucléaires beaucoup plus élaborés. Et en fait, une des surprises ou un des beaux résultats de cette expérience, c'est qu'en fait le modèle de la goutte liquide il marche sacrément bien. En fait, on arrive globalement à bien reproduire.
Alors même qu'il disait que le fermium ne devait pas exister.
Alors si, parce qu'on est juste en dessous de 104, donc il dit qu'il peut exister, mais il n'est pas censé décrire les effets fins. Et là, on peut se dire que quand même, quand on regarde l'évolution du rayon de charge moyen, on est quand même dans un effet qui est relativement fin. Et donc, de manière surprenante, ce modèle de la goutte liquide fonctionne...
Au moins pour les noyaux lourds ou très lourds.
Exactement.
Et est-ce qu'il marche pour les noyaux légers ?
Alors, pour certaines propriétés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça marche bien, mais ce qui est un peu normal, parce qu'en fait, le noyau devient tellement gros qu'on s'approche d'un système statistique. Finalement, avec les mains, ça peut se comprendre. On est tellement gros que modélisé par une goutte de liquide, finalement, on arrive à reproduire ces propriétés-là. Par contre, là où je tiens à préciser, c'est qu'on regarde dans cette expérience que le rayon de charge moyen. On ne regarde pas d'autres propriétés qui, elles, à coup sûr, ne pourraient pas être décrites par la goutte liquide et le seraient plus par des modèles plus élaborés.
Alors, quelle est la suite du programme ? Est-ce que vous avez d'autres projets d'expérience ? C'est une question que je vais poser d'ailleurs à Léla Guérou, qui est votre stagiaire pour cette semaine. Vous habitez à Caen. À Caen, il y a un grand laboratoire qui s'appelle le GANIL. Qu'est-ce que ça veut dire, GANIL ?
Grand Accélérateur National d'Ions Lourds.
Bravo. Et alors, vous le connaissez bien, ce laboratoire ?
Pas trop.
Est-ce qu'on vous en a parlé ? Puisque je crois que votre mère y travaille, donc j'imagine qu'elle vous raconte des choses.
Oui, on m'en a parlé.
Vous l'avez visité?
Non, j'ai pas eu l'occasion.
Alors vous, Marine Van den Broek, vous avez un projet d'expérience qui va bientôt démarrer. En quoi consiste-t-il et qu'est-ce que vous espérez trouver?
Alors en effet, une de mes activités, donc c'est d'étudier les propriétés de ces noyaux lourds et super lourds, comme on l'a dit. Et un de mes projets consiste à étudier des noyaux lourds et super lourds par la technique de spectroscopie laser, donc la même qui a été utilisée pour les isotopes de fermium à GSI en Allemagne, auprès du nouvel accélérateur Spiral 2 du GANI Lacan, et plus particulièrement auprès du spectromètre S-cube. Et au bout d'S-cube, il sera possible de faire de la spectroscopie laser des noyaux lourds et super lourds qui auront été produits et sélectionnés par S-cube.
Lourd, ça veut dire supérieur à 89,
oui,
pour le Z.
Oui, en général, ouais, en général on dit lourd à partir des actinides.
Alors pour qu'on ait une idée de la taille des expériences, il y a combien de personnes qui collaborent à ces projets? Il y a des physiciens, des ingénieurs, des techniciens. C'est combien de personnes sur une expérience?
Alors sur une expérience, alors ça dépend. Je dirais que l'ordre de grandeur, c'est la centaine. Ça peut être un peu moins si on compte.
Dans l'article de Nature que vous avez amené, que vous avez apporté, il y a, j'ai pas compté exactement, mais je pense qu'il y a une centaine de noms.
Oui, c'est ça, c'est l'ordre de grandeur.
En physique des particules, ça peut être plusieurs milliers.
Exactement.
En physique atomique, c'est moins. On a l'impression que plus l'objet est petit, plus il y a de monde qui doit signer.
Alors, je l'aurais pas dit comme ça, mais je pense que ça rejoint ce que disait Leïla tout à l'heure, que au plus on doit sonder petit, au plus l'outil, donc l'accélérateur, les détecteurs sont, surtout l'accélérateur est gros, parce qu'en effet on a besoin de plus d'énergie pour aller sonder plus petit. Et donc forcément, bah, y a besoin de plus de compétences techniques pour mener à bien une expérience. Donc c'est plus lié à ça en fait.
Mais quelle est la question qui vous travaille au fond? La question que vous posez, dont vous aimeriez connaître rapidement la réponse. Est-ce qu'il y en a une, plusieurs, dans votre domaine d'expertise?
Il y en a plusieurs. Une, je pense pas qu'il y en ait une qui ressorte particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me motive dans la physique nucléaire, je dirais que c'est la physique aux interfaces. Parce qu'en fait, on a des modèles qui marchent bien par zone, j'ai envie de dire. Mais je suis assez curieuse de ce qui se passe aux interfaces entre ces modèles. Faire les ponts entre ces modèles.
Qu'est-ce qui fait qu'un modèle cesse de fonctionner et qu'un autre commence à fonctionner?
Exactement. Et donc typiquement, je crois que c'est aussi pour ça que je m'intéresse à la physique des noyaux lourds et super lourds étudiés par spectroscopie laser. C'est parce que justement, on a l'interface entre physique atomique et physique nucléaire. Et donc, au-delà de l'intérêt de comprendre les limites d'existence de la matière, qui est une motivation déjà en tant que telle importante, ce que j'aime bien, c'est travailler à l'interface entre ces deux modèles, se confronter, ces deux modèles. Parce que j'ai l'impression qu'on peut en apprendre beaucoup, en fait, quand on se met aux interfaces. Une autre de mes activités qui n'a rien à voir, mais enfin qui n'a rien à voir avec les noyaux lourds, mais qui reste de la physique nucléaire, c'est regarder par exemple les modes de vibration du noyau. Et ces modes de vibration du noyau, souvent, ils permettent de se rattacher à ce qui se passe dans les étoiles. Donc là, on est à l'interface entre deux autres domaines. Donc moi, voilà, de manière générale, je crois que ce qui me motive, c'est à l'interface entre, qu'est-ce qui se passe à l'interface entre les domaines?
J'allais justement vous poser la question, est-ce que les astrophysiciens qui s'intéressent au fonctionnement des étoiles vous apprennent des choses? Et est-ce que vous-même, vous produisez des résultats qui les intéressent? Et qu'ils utilisent dans leurs propres travaux?
Alors,
parce que les noyaux sont fabriqués dans les étoiles.
Oui, oui, oui. Et notamment les noyaux, je reviens vraiment aux noyaux lourds et super lourds. Comment sont produits ces noyaux lourds et super lourds? C'est une question qui intéresse particulièrement les astrophysiciens nucléaires, typiquement. Et donc oui, bien sûr, l'un alimente l'autre. Typiquement, nous, ce qui les intéresse, ce sont ce qu'on appelle les sections efficaces de production. C'est-à-dire avec quelle facilité on peut produire tel ou tel noyau lourd. Une fois qu'on a ces mesures-là, eux, ils peuvent les injecter dans leur modèle et prédire... où exactement sont fabriqués ces noyaux, par exemple.
Mais Et on a dit tout à l'heure, Marine Brandebourg, que ces noyaux super lourds n'existent pas dans la nature. Mais est-ce qu'en fait ils existent parce qu'ils sont produits dans je ne sais quel processus stellaire, mais avec des durées de vie tellement courtes qu'on peut pas les observer, ou est-ce qu'ils n'existent pas du tout, de sorte que peut-être le seul endroit de l'univers où on peut en voir, c'est dans vos expériences?
Eh bien là, faut se fier aux prédictions théoriques.
Parce que qui disent quoi?
Qui diffèrent. Il y a certains noyaux qui... Donc là, on parle d'un domaine qui n'est pas du tout le mien, je tiens à le préciser. Donc je marche sur des œufs. il y a par exemple des noyaux qui sont prédits comme pouvant être peuplés lors de processus astrophysiques, notamment appelés des processus R, par exemple. Parce qu'on sait que les noyaux dans les étoiles sont fabriqués jusqu'au fer. Au fer, on atteint un espèce de...
Z égale 26.
Oui. Donc du coup, c'est jusqu'au fer. Parce qu'au fer, il y a un certain équilibre de l'énergie de liaison au sein du noyau. Donc c'est-à-dire qu'au cœur des étoiles, on a des réactions nucléaires de fusion successives. Donc le carburant des étoiles, c'est quoi? C'est l'hydrogène, l'hélium. On va faire des fusions nucléaires successives pour fabriquer des noyaux de plus en plus lourds et jusqu'au fer, justement, parce qu'il y a un certain équilibre au niveau du fer, une certaine stabilité liée à son énergie de liaison qui est favorable.
Donc si les choses s'arrêtaient là, dans les étoiles, le tableau périodique des éléments irait de l'hydrogène jusqu'au fer et pas au-delà.
Exactement. Et nous, sur Terre, on n'aurait rien de plus lourd que le fer. Donc il faut bien imaginer des endroits où on va produire ces noyaux plus lourds que le fer. Un des scénarios qui existe depuis déjà de pas mal d'années et qui est favorisé, c'est notamment ce qu'on appelle le processus R, donc R pour rapide, qui aurait lieu lors de processus violents, type les explosions de supernova. Parce que typiquement, une étoile en fin de vie, elle va s'effondrer sur elle-même, rebondir pour exploser. Et ça, ce sont des processus très violents qui mettent beaucoup d'énergie en jeu. Et ces sites où beaucoup d'énergie sont en jeu, où beaucoup d'énergie est mise en jeu, pourrait y avoir des processus de capture neutronique. C'est-à-dire que, par exemple, on prend notre fer, ou un noyau plus léger qui aurait été fabriqué dans l'étoile, pourrait se prendre des vagues de neutrons qui fusionneraient, donc qui seraient capturées. Et puis après, on ferait des réactions de désintégration successives, donc les fameuses radioactivités bêta.
Donc les neutrons deviennent des protons.
Exactement.
Et on colonise comme ça le tableau périodique.
Exactement. Et on monte en masse comme ça.
Jusqu'à l'uranium. Et peut-être au-delà.
Et peut-être au-delà. Voilà.
Et c'est là-dessus que les modèles théoriques ne sont pas d'accord.
Alors, globalement, pour l'instant, à ma connaissance, encore une fois, parce qu'on n'est pas sur mon domaine, à ma connaissance, ce processus R, il n'a pas été remis en question. Les résultats expérimentaux vont en faveur d'un processus R qui serait validé.
Léla Guérou, on a parlé des atomes dont on vous a parlé à l'école, au collège. Est-ce que les étoiles sont des objets dont on vous parle pendant vos cours de sciences?
On en a parlé quand j'étais en sixième. On a parlé principalement du système solaire, ce qu'il compose, etc. Mais j'ai pas souvenir qu'on ait plus approfondi que ça.
Mais vous saviez que les atomes, enfin les noyaux des atomes, sont fabriqués, comme l'a expliqué Marie van de Broek, dans les étoiles? Qu'on ait des poussières d'étoiles, comme on dit parfois?
Ça, je l'ai appris cette semaine.
Ça vous fait quoi de savoir que les atomes qui sont dans votre corps, ils viennent d'une étoile?
C'est impressionnant.
Et c'est vrai que je me rappelle de tes yeux quand je te l'ai dit cette semaine.
Marine Brandebourg, cette expérience S-Cube, dont vous avez brièvement parlé tout à l'heure, elle va commencer dans quelques mois, je crois.
Oui, alors il y a eu déjà une première belle étape de franchie il y a quelques mois, où un faisceau accéléré par le nouvel accélérateur Spiral 2 a été envoyé sur la cible.
Un faisceau de quoi?
Un faisceau d'argon.
D'argon.
Voilà.
Des noyaux d'argon.
Des noyaux d'argon, avec une très haute intensité. On parle de 10 puissance 13 particules par seconde, si je ne me trompe pas. Et donc ça, c'est une première belle étape déjà de franchie, parce qu'il y a eu déjà voilà, toute la ligne entre le bout de l'accélérateur et l'entrée de S-Cube qui a pu être sondée comme ça, qui a pu être validée. Et le faisceau a été envoyé sur la cible. Alors il faut s'imaginer que quand on envoie de telles intensités, la cible, ça ne peut pas être juste un morceau que l'on met au niveau du faisceau. C'est une cible où, en fait, c'est une roue où il y a plein de petites cibles et on synchronise les paquets de faisceaux sur une des cibles qui montait sur une roue.
En fait, là où elle tourne.
Exactement, donc, la roue tourne.
Et l'impact est différent d'une impulsion à l'autre.
Exactement. Et donc ça, ça a pu être testé. Donc c'est déjà une première belle étape après des années de construction, de travail, de beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs. C'est une belle première étape qui a été franchie. Et d'ici quelques mois, c'est le faisceau qui sera envoyé dans S-Cube. Donc S-Cube, c'est quoi ? C'est un ensemble d'éléments magnétiques. Qui va permettre de sélectionner le noyau d'intérêt parmi tous ceux qui seront produits au niveau de la cible. Parce qu'au niveau de la cible, on va faire des réactions de fusion-évaporation, donc les mêmes que celles utilisées à GSI.
Mais quels sont les noyaux présents dans la cible ?
Alors, ça peut être plein de choses. Typiquement, si on veut étudier des uraniums, pour produire ces uraniums exotique, déficient en neutrons, on va utiliser une cible de plomb et on va envoyer un faisceau de néon dessus. Néon sur plomb.
Il y aura des collisions plomb-néon.
Exactement.
Des réactions nucléaires qui produisent des éléments chimiques nouveaux.
C'est ça, et qui produisent beaucoup de choses. Et le but, c'est d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin, j'ai envie de dire, parce qu'on va parler, on va produire beaucoup, beaucoup d'éléments, de noyaux différents, d'isotopes différents. Et donc, le but d'S-Cube, une des forces d'S-Cube, c'est sa sélectivité et son efficacité de transmission. Et donc, c'est pour ça que c'est un projet, un spectromètre que l'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience, parce qu'on va pouvoir avoir des faisceaux de noyaux lourds et super lourds avec des intensités sans précédent au monde.
Et donc, est-ce que vous espérez pouvoir fabriquer des super lourds qui n'ont encore jamais été vus, ou vous allez rester dans une gamme déjà explorée ?
Alors, dans un premier temps, ce sera plutôt étudier des propriétés des noyaux lourds et super lourds, mais il est aussi envisagé et possible qu'on adresse la question de la production des noyaux plus lourds que le 118. Mais là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des expériences très longues. C'est-à-dire que à Dubna, en Russie, quand ils ont des expériences pour produire des noyaux comme le 118, c'est des mois et des mois d'irradiation. Donc c'est des mois où on ne fait que ça. Donc après, c'est des politiques de programmes expérimentaux. Ce sera à voir dans les prochaines années.
Marie Bandebrouck, vous parlez de projets là qui sont à très long terme. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez trouver des étudiants, des jeunes chercheurs intéressés par ces travaux ? Ou est-ce que vous avez l'impression d'une forme de désaffection pour des questions fondamentales qui semblent moins prioritaires que des questions scientifiques liées à l'environnement, par exemple ?
Il y a des questions qui sont posées qui n'étaient pas posées avant. Je pense notamment quand on commence à réfléchir à des grands projets, des grands accélérateurs. Donc là, je change d'échelle, je pars sur la physique des particules, par exemple.
Ah bon, on a parlé la semaine dernière du projet du FCC,
exactement.
Le grand collisionneur qui va succéder au LHC,
exactement.
Au CERN.
Exactement, ce n'est pas sans question associée à l'environnement. Donc il y a des questions qui sont posées aujourd'hui qui n'étaient pas posées.
Que les jeunes posent plus que la génération précédente.
Exactement, ça on le sent. Mais je ne pense pas que ça impacte. Donc, il y a des questions qui viennent sur le tapis, dont on discute, qui sont vraiment partie prenante dans les choix qui sont faits aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a des dizaines d'années en arrière. Maintenant, nous n'avons pas de problème de recrutement au niveau physique nucléaire, du moins, c'est une science qui attire toujours beaucoup. Et à chaque fois qu'on ouvre un poste permanent dans nos activités, on a des dizaines d'excellents candidats. Et on n'a aucun problème à recruter des jeunes motivés, intéressés. Je pense qu'une des forces de la physique nucléaire aussi, peut-être par rapport à d'autres domaines, c'est ce côté multifacette, en fait. Et c'est pour ça qu'on attire beaucoup de jeunes. C'est que comme ce sont des plus petites échelles que la physique des particules, typiquement, un physicien nucléaire expérimentateur, comme moi, va pouvoir à la fois imaginer son détecteur,
le construire et l'utiliser.
Exactement, l'utiliser, prendre des données avec, réaliser des analyses de données, interagir avec les théoriciens pour interpréter ces données, mais continuer à être dans les premières auteurs de l'article, écrire l'article, aller présenter ses résultats en conférence. On est capable de faire tous les maillons de la chaîne, en fait. Et ça, dans le quotidien, je trouve que c'est particulièrement excitant.
Mais par exemple, si on prend l'exemple de S-Cube que vous avez évoqué, quand est-ce que ce projet a germé dans votre esprit et dans celui de vos collègues ? quand est-ce que la construction a commencé et jusqu'à quand va-t-il être utilisé?
Alors, quand est-ce que l'idée a germé? Je ne sais pas, mais je sais que j'en entendais déjà parler pendant ma thèse dans les années 2010-2013. Donc là, on est sur un projet de au moins 15-20 ans, du coup. Je peux vous donner le cas d'un projet de plus petite échelle, qui est le détecteur, un des détecteurs qui ira au bout de S-Cube, qui est Season, qui est le détecteur dont je suis responsable
scientifique. Season, la saison en anglais.
Exactement, c'est le détecteur dont je suis responsable scientifique. Donc là, c'est un projet beaucoup plus petite échelle. Attention, on ne parle pas du tout de la même chose. Mais ça, c'est une idée typiquement de détecteur que j'ai commencé à avoir en 2017-2018. Les premières simulations de détecteurs 2018. Les premières réceptions de matériel, on est sur 2020-2021, des tests de nos détecteurs. Et puis, s'en sont suivis beaucoup d'étapes de montage, de validation, de toutes les d'études des performances. Et aujourd'hui, on a un détecteur qui est monté au sein de notre institut et qui va être envoyé pour ses premiers tests au GANIL la semaine prochaine. Donc voilà, donc une idée de détecteur.
Donc il y a une période de test, ensuite il y a une période de prise de données.
Oui.
Et entre la fin de la prise de données et les premières publications, qui elles-mêmes succèdent aux analyses que vous faites, aux interprétations, il se passe combien de temps?
Quelques années en général. On va dire 3-4 ans.
Donc vous êtes bien occupé.
Oui.
Leïla Guérou, je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire Marie Vandenbroek? Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez devenir physicienne nucléaire.
Je n'ai pas dit que je voulais devenir physicienne nucléaire, j'ai dit que ça m'intéressait.
Ah! Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on a raconté?
Ben, de découvrir toujours plus de choses.
Qu'est-ce que vous diriez, alors je sais que vous avez passé une semaine avec Leïla Guérou, mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui hésitent à s'engager dans des carrières scientifiques? Pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qui vous-même vous a porté dans cette direction? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est des opportunités?
Alors, ce qui m'a passionné dans la physique nucléaire, donc déjà ce qui m'a passionné dans la recherche fondamentale en général, c'est le fait d'apprendre tout le temps. D'être un peu une éternelle étudiante et de toujours se nourrir de connaissances. Je trouve que c'est facile de se lever le matin et d'aller travailler quand on se dit qu'on va travailler à essayer de comprendre notre monde. C'est quand même une belle motivation. Et donc, c'est compliqué, hein. Je dis pas qu'on y arrive tous les jours, au loin de là, mais d'essayer de contribuer à notre toute petite échelle, à essayer d'ajouter de la connaissance. Et donc, je trouve que le sens de nos activités est vraiment, vraiment très fort. La technologie aussi, on a la chance de travailler avec des bijoux de technologie. Donc ça, c'est aussi très, très important et c'est ce qui fait que notre travail, on l'aime beaucoup, c'est qu'on travaille vraiment avec des gens qui sont experts dans plein de domaines différents. Et je pense aussi, en effet, que j'ai eu la chance, moi, personnellement, de rencontrer des personnes très bienveillantes, très inspirantes dans ma jeune carrière. Et je pense à mes profs en prépa et puis après mes profs à la fac. J'ai eu la chance vraiment de rencontrer des personnes qui m'ont fait briller les yeux, qui m'ont accompagnée pendant toutes ces premières années de ma carrière.
Alors Marine Vandenbroek, vous avez dit tout à l'heure, vous étiez expérimentatrice, vous faites des expériences, vous concevez des détecteurs par exemple. Et Alain Aspect, que nous avons reçu ici il y a quelques semaines, disait que lui était tout le temps préoccupé par des questions techniques, des appareils en panne ou des choses qu'il faut réparer. Et ça le libérait d'une obsession trop forte des questions qu'il avait à résoudre dans le domaine théorique. Est-ce que vous êtes dans la même situation?
Alors, c'est difficile de se comparer à Alain Aspect.
Non, mais je parle.
Mais oui, je suis d'accord. En fait, ça, il faut se rendre compte que 99% de notre temps, en fait, est accaparé par des questions qui sont très, très, très terre à terre.
C'est-à-dire, on a tort d'imaginer que vous êtes tout le temps en train de planer sur des questions théoriques fondamentales ou même métaphysiques.
Totalement. On est vite rattrapé par le concret.
On parle beaucoup de l'IA en ce moment. Est-ce que l'IA vous sert? Est-ce qu'elle va vous servir, par exemple, dans l'analyse des données? Le prix Nobel de physique en 2024 a été remis à deux chercheurs qui travaillent dans les sciences computationnelles, qui sont à l'origine pour une partie de l'IA, notamment ils ont inventé les réseaux de neurones artificiels. Est-ce que c'est des choses qui font partie des outils que vous utilisez?
Alors personnellement non. Personnellement non, j'utilise pas du tout. Par contre, certains de mes collègues, je sais que oui. Il y a, alors sous plusieurs aspects, je suis pas du tout une experte, hein, mais loin de là. Mais je sais que c'est de plus en plus utilisé. Par exemple, j'ai un collègue qui s'est amusé à entraîner un réseau de neurones pour essayer de voir s'il n'y avait pas des nouvelles observables qui pouvaient sortir d'un jeu de données et essayer de comprendre si on pouvait mettre un sens derrière cet observable. Donc ça, c'est des études qui sont assez intéressantes, je trouve. Mais donc je pense que dans les prochaines années, ça va prendre de plus en plus de place. Mais moi, personnellement, sur mes activités, je n'ai pas encore eu l'utilité.
Quand le mot noyau atomique est prononcé, c'est un concept, c'est un objet, mais c'est aussi un concept. Est-ce que ça suscite dans votre imagination une image bien déterminée ou est-ce que c'est quelque chose qui reste flou dans votre esprit?
Alors, au premier ordre, on voit la framboise et très rapidement, ça devient flou. Et justement, c'est pour ça qu'on continue de faire beaucoup de recherches. C'est que dès qu'on commence à réfléchir au-delà de la première image, le flou s'installe et on voit toutes les questions qui restent encore ouvertes.
Merci Marine Vandenbroek et merci à Leïla Guérou, votre stagiaire, qui sera réinvitée dans 10 ans pour qu'elle confirme qu'elle a vocation à devenir physicienne nucléaire. Merci à vous deux. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Luc Jean-Reynaud.